Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Avez-vous remarqué l'actualité ces derniers temps est saturée de jaune, une crise sociale et politique qui, à force de secouer la France, fait apparaître en son cœur moderne que sont les villes, une blessure profonde. Du jaune, il y en a d'une certaine manière aussi si l'on regarde du côté des négociations commerciales qui ont cours actuellement entre les États-Unis et la Chine. Et si l'on file cette métaphore des couleurs, on pourrait trouver également du gris avec le grand débat national tant il semble laisser les Français interrogatifs. Et pour finir, du noir, un noir dur, celui de la crise de la psychiatrie publique en France. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Grand rendez-vous de Vivante Église, apprécié des auditeurs. On essaye d'être à la hauteur, en tout cas nos invités. Autour du plateau, elle va arriver dans quelques instants, Daniel Cabanis, qui est professeur émérite en histoire du droit à l'université Toulousain-Capitole. Tanguy Marie Pouliquen, prêtre religieux à la communauté des Béatitudes et professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain, lui est professeur de théologie au Studium des Dominicains à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être fidèle à l'aventure du grand débat. On a pu le noter lors du dernier Radio Don, c'est une des émissions qui est régulièrement citée. Et les gens apprécient cette émission et même donnent pour qu'on continue à faire cette émission. C'est dire. Alors l'actualité autour de la Chine, elle n'est pas dans le fond... énorme, enfin d'une certaine manière, mais je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de parler de ce pays continent.
C'est le nouvel an chinois quand même.
C'est le nouvel an chinois, c'est vrai, l'année du cochon, c'est bien ça, hein, qui s'ouvre. Et comme Daniel Cabanis et Tanguy Marie Pouliquen y vont souvent, je me suis dit que vous auriez certainement beaucoup de choses à dire. L'idée d'être un peu transversal, en lien avec l'actualité, mais pas complètement. Bref, l'actualité est la suivante. Un grand round de négociations s'est engagé entre la Chine et les États-Unis de façon à réduire le déficit de la balance commerciale des États-Unis. Donald Trump a donné jusqu'au 1er mars pour qu'un accord soit trouvé. La balance commerciale qui est en excédent du côté de la Chine de 323 milliards de dollars. Ça fait quand même pas rien. Et Donald Trump qui menace d'augmenter les droits de douane de 10 à 25%. La Chine, plein d'autres choses à dire. Votre première chose, ça serait, allez, Tanguy Marie Pouliquen, racontez-nous pourquoi vous connaissez la Chine et qu'est-ce qui vous viendrait comme premier commentaire à propos de ce pays continent. Je vais quand même donner deux chiffres. C'est 17,5 fois la superficie de la France, 1,3 milliard d'habitants et 10% de croissance depuis près de 30 ans, enfin sauf en 2018.
Alors effectivement, la question de la croissance, c'est une croissance à 6,5 aujourd'hui, donc c'est un pays qui est un petit peu en chute du point de vue de la croissance, mais c'est très important de parler du levier économique, parce que c'est un petit peu la caution du régime. Si l'économie va, tout va, et aujourd'hui, d'une certaine manière, il y a des courbes qui vont se croiser, la courbe de l'inflation avec la courbe de la croissance. Et on sait que s'il y a une inflation qui va être trop forte, il risque d'y avoir des revendications sociales très fortes, une perte de pouvoir d'achat. Et donc, comme le gouvernement, d'un point de vue d'une légitimité politique, ça vaut quasiment zéro, du point de vue de la population.
C'est-à-dire que pour la population, le régime politique actuel n'a aucune légitimité.
Aucune légitimité, si ce n'est selon une inertie historique où le grand mandarin avait imposé son pouvoir et que successivement, après quelques espaces des clignotants démocratiques au début du 20e siècle, la reprise depuis la République de Mao en 49. À reprofiler un grand leader, un nouveau mandarin, et à aligner successivement les représentants politiques sur la force de l'inertie historique, c'est-à-dire un mandarin qui contrôle. C'est vrai que c'est un pays qui est énorme, il faut le contrôler, donc le lien entre politique et volonté de contrôle est énorme.
Qu'est-ce qui vous frappe on peut dire que vous allez en Chine de temps en temps.
Oui, ça fait
Qu'est-ce qui vous a frappé au long des années?
Ben, c'est la puissance.
C'est-à-dire
les villes gagnent en puissance, c'est incroyable. Moi, je suis allé dans cette province de Chine. Les barres de gratte-ciel, c'est impressionnant. Il y a des barres de gratte-ciel, 10, 20, 30 gratte-ciel les uns à côté des autres. Donc il y a une puissance économique qui est là, une richesse qui ruisselle, c'est-à-dire que la richesse des riches ruisselle quand même sur au moins une certaine classe moyenne.
J'ai vu qu'il y avait juste, j'ai fait le calcul, il y a juste à peu près 6% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est quand même pas énorme, ça m'a beaucoup surpris.
Alors on n'est pas d'accord du tout avec ces chiffres-là.
Ah bon, non, là, 82 millions de personnes qui vivraient sous le seuil de pauvreté.
Alors ça dépend quel seuil de pauvreté, hein. Si c'est le seuil de pauvreté à l'africaine, on est peut-être d'accord. Mais le seuil de pauvreté, non, on dit beaucoup plus, hein, 30, 35, encore, voilà, tout l'intérieur, la richesse, elle est sur l'Est, sur les côtes. Et par contre, alors, voilà, la population aussi, elle est, si on divise la Chine en deux, elle est sur la moitié Est, là, 80% de la population.
Daniel Cabanis, vous êtes arrivé, donc je vous dis bonjour. Merci d'avoir bravé les embouteillages ce matin. Voilà, chaque matin, il y a beaucoup d'embouteillages. Vous allez régulièrement en Chine aussi. Donc je disais que le prétexte était ces fameuses négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis. Ça attirera peut-être un commentaire. Peut-être avez-vous même fait une chronique à cette antenne sur ce sujet. On parlait de la richesse et de la puissance de la Chine. On pourrait aussi parler de ce fameux leader Xi Jinping. Voilà, réélu en mars 2018. J'ai vu que entre autres, sa pensée était maintenant inscrite dans la doctrine et la constitution du Parti communiste chinois. On parle d'un dictateur. Je sais pas, qu'est-ce que vous diriez en premier, et surtout peut-être récit de voyage, si je peux me permettre, commencer par ça.
Récit de voyage, parce que je vais en Chine depuis quelques années régulièrement pour participer à une université d'été dans le cadre de l'Université des Relations internationales de Pékin. Et ce qui me frappe, si je prends la dizaine d'années qui s'est écoulée depuis que j'ai ces missions, c'est la réduction progressive de la liberté d'expression. La première année où j'y suis allée, en 2008, on pouvait dire à peu près ce qu'on voulait dans un cours, moyennant de ne pas chatouiller deux ou trois fois. Il y avait quelques lignes rouges, mais c'est le cas de le dire, mais qui n'étaient pas très contraignantes. Tandis que maintenant, d'une part, on est constamment surveillé. Le commissaire politique vient écouter les cours et est susceptible de nous interrompre et de nous faire virer. Et puis, d'autre part, les étudiants...
Vous voulez dire que c'est arrivé quand vous étiez?
Alors, à moi, non. Non, parce que je suis un vieux renard et que j'arrive à dire pas mal de choses que je veux parce que je sais les emballer et qu'ils ne savent pas suffisamment bien l'anglais pour arriver à me piéger. Mais je veux dire, ça s'améliorera et bientôt ils me piégeront comme si j'y retourne, comme n'importe qui. Donc ça, c'est un point qui est très impressionnant. Et puis la deuxième chose qui me frappe, c'est l'absence de réaction des Chinois devant la mise en place d'un Big Brother visuel, qui est cette espèce de reconnaissance faciale qui tente à s'imposer pour l'ensemble de la population.
Bon. 200 millions de caméras.
Oui, enfin, c'est quelque chose d'absolument hallucinant. Alors, pour l'instant, ça ne concerne pas encore absolument tout le monde, tout le temps. Mais l'objectif, il est quand même de surveiller la totalité de la population, ce qui veut dire que l'espace privé de chacun va être encore réduit, avec toujours cet argument, mais grâce à ça, nous lutterons contre la criminalité, nous n'aurons pas de l'équivalent fonctionnel des djihadistes, et de se féliciter de cette redoutable efficacité. Alors, vous évoquiez tout à l'heure, et vous avez 100 000 fois raison, le fait que le gouvernement est polarisé sur l'économique, parce que pour lui, tant qu'il arrive à tenir ses troupes en les nourrissant correctement, en les soignant à peu près et en les éduquant à peu près, ça roule. En sachant que, vous avez parlé de force d'inertie, renforcée par une tradition exceptionnelle, les Chinois ont toujours été, un, des délateurs, parce qu'on les a éduqués comme ça. On doit surveiller le voisin et annoncer à la police ce qu'on, ou à l'autorité, quelle qu'elle soit.
Donc tout le pays espionne, c'est ça ?
Tout le pays espionne et... ils ne voient pas pour le moment d'intérêt véritable, à part quelques exceptions, à ruer dans les brancards. Je suis frappée de voir nos étudiants, quand ils rentrent en Chine, ils changent complètement. Moi, j'en ai retrouvé que j'avais vu ici ayant des velléités d'indépendance. Et maintenant, ils ont rentré les oreilles.
Emmanuel Perrier, qu'est-ce que vous voudriez dire sur la Chine?
Ce sont plus des réactions à ce que j'entends, parce que je n'ai pas les mêmes
compétences. Vous n'êtes pas allé en Chine?
Non, je ne suis pas allé en Chine. J'ai l'impression qu'il y a... En écoutant, j'ai l'impression de revoir des grandes constantes de l'histoire chinoise qui ressurgissent, c'est-à-dire l'immensité du pays qui oblige à un pouvoir fort, mais qui en même temps, il y a une culture dans laquelle justement la personne n'a pas sa place. On ne compte pas en personne, on compte en individu, on compte en force, en puissance. Et une tendance assez naturelle de la Chine à connaître des phases d'expansion par le biais de la puissance, de la force, qui sont suivies d'explosions parce que justement tout a été misé là-dessus, et de régression, de division liée au fait qu'une société qui s'unifie par la force est une société fragile. Hein, c'est une société qui est forte, c'est une société qui s'unifie par une culture, par un bien commun, etc. Une culture chinoise, hein, je ne mets pas ça du tout en doute, hein. Loin de moi. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est une remarque sur les négociations avec l'administration Trump. On a beaucoup rigolé de du côté va-t-en-guerre de Trump. Il n'empêche qu'il a obligé les Chinois à se mettre à une table de négociation. Et je ne sais pas ce qui en sortira. Peut-être que ce sera pour simplement des clopinettes, comme on dit. Mais en tout cas, le géant chinois. Il y a une espèce de montée vers une certaine confrontation qui était inévitable, à mon avis, vu l'importance et les ambitions du géant chinois. Et là, on se trouve dans une phase de négociation. Bon, voilà. Troisième chose, c'est sur la liberté d'expression. Mais je pense que c'est une tendance de fond, alors qu'il se manifeste en Chine de manière assez sans frein. sans vergogne, hein, on n'hésite pas à afficher tout le monde, mais qui se manifeste aussi dans nos pays. Hein, c'est une tendance de fond dans laquelle on fait passer, pour des motifs soi-disant de sécurité, bien des atteintes à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion, à beaucoup de choses.
Vous pensez à quelque chose en particulier ? Ou un pays, à la France, à des événements récents.
Ah bah regardez, par exemple, pas plus tard que j'ai vu, pas plus tard que ce matin, que la mairie de Nice allait, pour le prochain carnaval, tester un logiciel pour repérer les visages à partir des caméras de surveillance de la ville. Et faire une reconnaissance faciale de tous les participants, enfin en tout cas d'une partie des participants du carnaval de Nice.
J'aimerais qu'on parle un petit peu de la liberté religieuse. Voilà, parce qu'il y a en Chine, normalement, et si j'ai bien compris, je ne retrouve pas mes notes, mais une liberté religieuse, j'allais dire certaine, en tout cas une acceptation d'une certaine liberté religieuse. Mais dans les faits, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et ça nous intéresse, nous les catholiques. On a entendu parler des négociations entre le Vatican et la Chine, de la fameuse église clandestine. Vous qui allez là-bas, je ne sais pas ce que vous pouvez dire, l'un et l'autre, mais comment ça se passe ?
Alors, dans un de mes derniers voyages, j'ai rencontré le jésuite Cochini, qui d'ailleurs décédé depuis, et en le rencontrant à Fuzhou, dans le Fujian, et il me disait, pour que le christianisme s'insère vraiment dans l'espace chinois, il faudra du temps et il faudra prendre le biais historique, compris les bouddhistes, à savoir vraiment négocier en permanence avec l'État. Alors cette négociation aujourd'hui avec l'État, si on regarde les informations de terrain, elle n'est pas sans soubresaut très 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 très, très inquiétant.
C'est-à-dire qu'il y a régulièrement des persécutions.
Alors les persécutions qui reprennent.
Hein, ça ressemble à quoi des persécutions en Chine ?
Ben, c'est-à-dire
on retrouve un prêtre de temps en temps au fond d'une mare.
Non, il n'y a pas. Il y a eu quelques prêtres qui ont été exterminés, surtout un lorsqu'il a peut-être dépassé la ligne rouge pour le gouvernement d'organiser une conférence nationale sur catéchisme. On l'a retrouvé dans une rivière, c'est-à-dire voilà, c'est un prêtre qui était un ami d'amis, donc. On connaît bien l'histoire et elle est dramatique. Actuellement, non, il n'y a pas de prêtre.
Donc ça ressemble à quoi, cette persécution?
C'est maintenant ce qui avance, c'est interdiction par endroit. Par endroit, donc les politiques sont différentes selon les provinces. Interdiction d'accès des enfants dans l'église. Interdiction par endroit de célébrer. L'église se ferme. Fermeture de certains monastères dans le nord, là, j'ai eu des informations dans ce sens-là. Et puis élimination des croix au-dessus des édifices. On ne peut pas dire que c'est généralisé. Pour l'instant, le gouvernement, en termes de politique religieuse, est dans une politique de test. teste les réactions locales à des zones de test. Le Rhénan est une zone
pourtant,
de test.
Pourtant, on entend dire qu'à cause des négociations en cours avec le Vatican et de l'accord en cours, enfin là je renvoie à d'autres émissions.
Oui, mais le gouvernement est divisé là-dessus. Le gouvernement est divisé là-dessus. C'est-à-dire
ça serait une période d'accalmie. En tout cas, ils auraient tout intérêt à ce qu'il y ait une période d'accalmie.
Pour l'instant, l'enjeu et l'intérêt du gouvernement, c'est de puiser dans la stabilité, la cohérence et la discipline de l'Église catholique pour que l'Église catholique, et c'est vrai, elle est facteur de moralité et de stabilité sociale. C'est vrai. Pour autant qu'elle coopère. Mais d'un point de vue, du point de vue de la liberté religieuse, il y a des limites. J'ai quand même discuté avec des missionnaires. Il n'y a pas un problème pour les missionnaires étrangers, pour autant qu'ils font profil très très bas.
C'est-à-dire qu'ils s'occupent des communautés chrétiennes et
voilà,
personne d'autre. Voilà,
ils s'occupent, mais en profil très bas.
Daniel Cabanis, est-ce que ça attire un commentaire, cette liberté religieuse? Je dis au passage, j'ai découvert, hein, vous le saviez certainement, que voilà, l'athéisme était exigé pour faire carrière, enfin peut-être même dans le Parti communiste, mais peut-être même en général, puisque pour faire carrière, il faut être en Chine du Parti communiste.
Oui, alors c'est vrai que dans la logique du communisme, on ne peut être que cathée, mais c'est vrai partout. On ne peut pas être communiste et chrétien, c'est pas possible.
Il y en a encore quelques-uns qui se baladent, mais
il y a une incompatibilité.
J'en ai reçu sur ce plateau.
Pas publiquement.
Il y a une incompatibilité de principe. Il y a un moment où il faut choisir.
On est d'accord.
Mais pour ce qui est de la Chine, c'est vrai que l'accès à toute fonction publique, bien évidemment, et même certaines carrières dans le privé, repose absolument sur l'appartenance au Parti communiste. Donc ça veut dire pas d'engagement religieux de quel ordre qu'il soit, mais en même temps, on s'aperçoit, alors ça ne concerne pas les chrétiens, mais les bouddhistes, que de plus en plus de Chinois qui, il y a encore 15 ans, se seraient fait découper en rondelles plutôt que d'entrer dans une pagode, non seulement entrent dans les pagodes, mais s'y livrent à quelques formes de dévotion, et apparemment sans être ennuyés. Mais il n'y a pas d'intérêt patrimonial, il n'y a pas de revendication de pouvoir de ce côté-là, il n'y a pas d'autorité étrangère, alors que pour les chrétiens, enfin surtout pour les catholiques avec l'autorité du pape, ça coince à ce niveau-là, même si le pape François a quand même lâché sacrément de l'Est, puisqu'il a reconnu les évêques qui n'étaient pas de l'Église clandestine, donc des évêques qui n'avaient pas été désignés selon les normes canoniques.
Sans leur donner un pouvoir de juridiction pour l'instant.
Oui, c'est vrai, mais enfin c'est quand même un gros pas, me semble-t-il, de fait.
On va faire une première pause à propos de la liberté religieuse. On pourrait juste parler aussi de la minorité musulmane.
Les Ouïghours.
Voilà. Comment vous prononcez ça, Daniel?
Ouïghours.
Voilà. Avec donc des images de camps qui sont soi-disant des camps d'éducation, qui sont en fait des camps de travail, avec du kidnapping, des intimidations, des tortures, viols et disparitions.
Un million de personnes
dans ces camps. Voilà, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler du grand débat. Thank you.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église avec nos invités qui sont de bonne humeur ce matin. Daniel Cabanis, professeur émérite en histoire du droit à l'Université Toulousain Capitole. Tanguy-Marie Pouliquen, prêtre religieux à la communauté des Béatitudes, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse. Et Emmanuel Perrier, prêtre et religieux dominicain et professeur au Studium chez les Dominicains à Toulouse. Alors, deuxième grand sujet. C'est le grand débat, voilà. Je comptais vous lancer d'abord par ça, plonger donc dans la lettre aux Français adressée par Emmanuel Macron, dans laquelle il posait les quatre grands sujets de ce débat. Je le rappelle, la transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, et organisation de l'État et collectivité. Et avant ma question piège, je voulais vous faire réagir quand même sur quelques phrases. Alors ça commence « La France n'est pas un pays comme les autres ». Le sens des injustices y est plus vif qu'ailleurs, l'exigence d'entraide et de solidarité plus forte, un peu plus loin. C'est pourquoi la France est de toutes les nations une des plus fraternelles et des plus égalitaires. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont dites en introduction, et j'ai noté la conclusion, probablement que c'est pas facile de signer en pareille circonstance, la signature c'est « en confiance ». Alors, avez-vous confiance dans ce grand débat, Daniel Cabanis ?
Ma réponse est une mauvaise réponse, mais je dirais à la place de quoi ? Oui, parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc actuellement, c'est sans doute la seule démarche qui peut éventuellement faire avancer les choses, mais ça ne suffira pas. Mais ça peut être un point de départ. Donc, je veux faire prophétie créatrice, ça doit marcher, donc ça va marcher.
Alors, qu'est-ce qui vous parle dans ce débat ? Et ma question piège, je la poserai aussi aux autres. Est-ce que vous y participez ? Vous avez participé à des réunions publiques ? Est-ce que vous avez rempli le questionnaire sur Internet, sur le site du Grand Débat, par exemple ?
Non, je n'ai pas encore rempli le questionnaire sur le site Internet. En revanche, j'ai participé à une réunion. Et ce qui m'a frappé, c'est d'un côté la naïveté de beaucoup de gens qui ont une espèce de foi dans un État qui pourrait tout arranger, alors qu'on sait très bien que ça n'est pas possible, qu'on ne peut dépenser à peu près que ce qu'on rentre, plus éventuellement quelques emprunts, mais ça ne peut pas aller au-delà de temps. Et puis, un côté complètement surréaliste, à savoir, mais j'y ai droit. On veut tout et tout de suite. Alors, La Suissesse que je suis est complètement, malgré le fait que je suis ici depuis bientôt 50 ans, mais reste complètement estomaquée devant ce genre d'attitude, parce que moi j'ai été habituée à une culture du compromis avec un résultat qui est quand même sensiblement meilleur, et socialement et économiquement. Donc je me dis, on se perd dans des débats qui, je crois, sont souvent des débats stériles parce qu'on pose des conditions avant d'écouter l'autre. Or, le dialogue, il passe par le fait qu'on s'écoute mutuellement.
Alors, dans la lettre aux Français, il y a un peu de « en même temps », peut-être cette invitation justement à une espèce de culture du dialogue ou du compromis, et un passage qui dit « et peut-être découvrirons-nous que nous pouvons tomber d'accord majoritairement au-delà de nos préférences plus souvent qu'on ne le croit ». Alors, on va tourner dans ce sens-là. Tanguy-Marie Pouliquen, est-ce que vous êtes en confiance comme Emmanuel Macron ?
Mais moi, j'honore la démarche du président de la République de créer des espaces de dialogue après avoir pris lui-même conscience qu'il avait besoin de liens sociaux, hein, de faire se rencontrer les gens. Je pense que la crise des gilets jaunes et la solution envisagée par cette démarche-là, c'est une c'est repermettre à ce lien aux gens de se parler.
Moi, je pense que c'est ce qui se passe sur les ronds-points, en tout cas.
C'est ce que les gilets jaunes disent. Largement, toutes les familles en parlent. Toutes les familles en parlent de cette crise. Et donc, c'est l'occasion d'un grand débat interne.
De la crise ou du grand débat ?
Non,
de quoi parle-t-on ?
Oui, alors, mais je pense qu'on parle du...
Au moins de la crise des gilets jaunes.
On parle de la crise des gilets jaunes et qu'on veut résoudre par un grand débat. Donc on ne peut pas, je pense, séparer les deux. Hein. Et derrière ce grand débat, c'est l'honneur de remettre en avant une réflexion qui se veut un peu avec un peu de hauteur de vue, qui se veut culturelle. Je pense que la crise aujourd'hui, elle est... Avant d'être économique, elle est culturelle. C'est une crise de justice sociale, c'est une crise de représentation politique. La France est jacobine, etc. Bon, elle est très, très verticale. Mais c'est une crise aussi c'est une crise du sens profond. Les Français ont un sens très profond de la liberté. Très, très profond. Mais, à mon avis, une mauvaise interprétation de la liberté, une liberté très, très porté vers les idées, les débats, les revendications. Une liberté qui est découplée d'un sens d'une certaine vérité, en tout cas d'un, je pourrais dire, si on prend la dynamique dialogale, d'un jeu tu nous, d'un jeu qui s'affirme en dialogue avec un tu pour créer un nous.
Alors vous avez évoqué la Suisse là, dites-moi. C'est...
Oui, non, je défends une vision de la personne qui est liée au personnalisme communautaire, c'est-à-dire que la personne ne se comprend pas seulement dans son individuation individualisante, se comprend dans sa capacité à créer des relations des qualités, au cœur même des,
même question,
des différences.
Est-ce que vous avez rempli le questionnaire? Est-ce que vous avez assisté à des débats publics?
Non.
Ou est-ce
que
votre vie religieuse vous l'interdit?
Alors, le seul interdit dans la vie religieuse, c'est de ne pas interdire aux autres de croire en Dieu. Vous savez, après, tout est possible pour un religieux. Il peut faire des grands voyages, il peut vivre, il peut se projeter. L'important, c'est d'accompagner les débats, les micro-débats que cela crée dans nos familles, dans tous les corps intermédiaires dans lesquels nous participons. Et je pense qu'en termes de professeurs religieux, on doit écouter et accompagner et favoriser ce dialogue qui peut être très constructif.
Emmanuel Perrier, qu'est-ce que vous pensez de ce grand débat? Est-ce qu'il vous intéresse? Je rappelle qu'il a commencé le 15 janvier, il se clôturera le 15 mars, donc c'est bientôt, et normalement la synthèse devrait être remise en avril. On parle même donc d'un référendum, d'un questionnaire national. Bref, il y a des bruits qui ont circulé sur ce sujet. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y voyez une vertu? Et si oui, laquelle?
Alors,
une ou plusieurs, d'ailleurs.
Pour y croire, il faut... y croire avec quelle base pour y croire? Est-ce que ça va être comme le grand débat sur la bioéthique, le fameux grand débat sur la bioéthique, dont le résultat... dont le résultat n'a pas tant plu que ça au pouvoir, puisque ça n'allait pas exactement dans le sens qu'il voulait, et qui s'est empressé de le faire remplacer par une autre commission d'experts qui, lui, va dire ce qu'on veut faire. Voilà. Est-ce que, autrement dit... Est-ce qu'on organise un grand débat sous la forme qu'on connaît dans le management des entreprises, c'est-à-dire que quand les gens vont mal, on les fait parler, ça libère la parole, ça fait du bien à tout le monde, et derrière, on fait passer ce qu'on veut. Est-ce que c'est ça, le débat? Est-ce que le débat, c'est « je vous laisse parler, mais de toute façon, je n'écouterai pas ce que vous dites ». Pour l'instant, je ne vois pas de raison de croire que ça puisse être de l'ordre, ce que disait le frère Tanguy Marie, un jeu tu nous.
Mais quels auraient été les signaux dans ces cas-là qui vous auraient permis d'y croire?
Alors, moi, le grand signal, ça a été pour moi la lecture de la lettre du président Macron. D'abord, bon, il pouvait pas grand-chose, mais ça a été visiblement rédigé en hâte l'espace d'un week-end, mais parce qu'il fallait faire diminuer la pression. Mais en le lisant, j'ai eu l'impression, non pas d'un président qui vient pour dire « je suis votre représentant et mon rôle, c'est de vous défendre. Mon rôle, c'est de vous servir. » Et je pense qu'une très grande part de l'animosité contre le président aujourd'hui vient de là, du fait que ses comportements, ses phrases, son mépris régulièrement exprimé montrent qu'il n'est pas là pour le service des gens et notamment des plus faibles. Ça n'est pas son problème. Lui, il est pour la start-up nation, il est pour les grandes rencontres internationales, etc. Il est pour changer le climat, mais s'occuper de l'insécurité, de l'emploi, etc., ça, vous comprenez, c'est pas aussi intéressant que changer le climat. Voilà. Deuxièmement, ce qui m'a frappé dans cette lettre du président Macron, c'est que toutes les questions, on avait l'impression que... Il disait aux Français, il prenait les Français en disant « Bon, très bien, vous voulez vous exprimer, très bien, venez dans mon bureau, voici, je vous présente mes dossiers, les dossiers sur lesquels j'étais fiche, je travaille actuellement. »
Donc c'est les quatre grands thèmes
qui
sont donnés dès la lettre, et les questions sont déjà posées dans la lettre.
Et je vous prends comme quand je parle à mes conseillers, et je vous dis « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Bien. Moi, ma réponse, c'est de dire « C'est pas mon boulot. » J'ai mes activités, je pense que chacun a ses activités et ne peut pas être spécialiste des questions concernées. Ils sont payés pour ça. Leur métier, c'est de répondre à tous ces dossiers techniques.
Et donc, il faudrait quoi? Alors, il commence par poser des questions, c'est ça? Ou... Parce que c'est ce qu'il fait en se déplaçant en province, en allant en rencontre des élus. Il pose des questions quand même, en tout cas, c'est ce qu'on voit.
La base de la confiance, c'est quand même de dialoguer avec les gens, de les rencontrer, de les écouter.
Oui, alors le peu que j'en ai vu ne m'a pas fait... Enfin, je n'ai pas eu l'impression de quelqu'un qui essaye de comprendre, de se mettre à la place et de prendre la mesure de ce qui cause le malaise général de notre population. Et que donc c'est un prétexte pour dire ce grand débat, c'est le moyen de faire passer moi ce qui m'intéresse, mon agenda, mes propres propositions, et pas du tout dans on n'a pas du tout l'impression qu'il ait saisi ce qui cause le malaise de notre population.
Et donc, si vous deviez le résumer en une phrase, c'est ce sentiment d'injustice, c'est ça, ou c'est que décrivait Tanguy Marie Poulenc?
Un malaise dans une population, c'est toujours de l'ordre de la justice. Et il y a effectivement un sentiment profond, je crois, d'injustice. Mais après, il y a un malaise culturel, il y a un malaise des structures sociales qui sont en profonde crise, de déliaison, le fait que sur les gilets jaunes, sur les ronds-points, bon nombre de gilets jaunes se soient dit, c'est quand même merveilleux de pouvoir se retrouver, de pouvoir se parler. Ça veut dire qu'il y a une grave crise du débat, de la discussion, de la place publique dans notre société.
Alors, j'avoue que je me suis penché donc sur ce questionnaire, hein, je l'ai même rempli, pour le décrire et pour donner peut-être envie aux auditeurs d'y participer. Il y a des fiches introductives, par exemple la transition écologique, vous avez le diagnostic, ils ont fait court, hein, le diagnostic tient en deux colonnes sur une page A4. Les enjeux du débat, et là le gouvernement dit ce qu'ils ont déjà fait récemment. Et puis après, donc, vous avez un questionnaire. Alors les questions en fait sont assez rapides, hein, pour la transition écologique. Vous avez 7 questions. J'en cite allez, une ou deux. Pensez-vous que vos actions en faveur de l'environnement peuvent vous permettre de faire des économies? Pensez-vous que la taxe sur le diesel et sur l'essence peuvent permettre de modifier les comportements des utilisateurs? Il repose la question. Voilà. Et par exemple, qui doit être en priorité concerné par le financement de la transition écologique? Les administrations, les particuliers, les entreprises? J'avoue que sur le dossier fiscalité, dépenses publiques, peut-être pour illustrer ce que disait le frère Emmanuel Perrier, pour vous poser la question, il est demandé à un moment quelles dépenses il faut... où est-ce qu'il faut faire des économies dans le train de vie de l'État? Et puis là, on vous demande de cocher santé, éducation, logement, défense. Pas facile de répondre à ces questions, Daniel Cabanis. Tout le monde n'est pas professeur émérite de droit à l'Université Toulousain Capital.
Ah oui, mais ça ne donne pas la science infuse non plus, hein, je vous rassure tout de suite. Non, la seule chose...
Ce que je veux dire par là, c'est que les questions sont graves.
Oui.
Il faudrait presque prendre 2 semaines de vacances chacun pour arriver à répondre ne serait-ce qu'à 3-4 questions sérieusement.
Oui,
c'est
mais
peut-être le journaliste premier de classe qui...
Oui, mais en même temps, le propre d'un questionnaire politique ou culturel, enfin, peu importe, pour qu'il soit exploitable, suppose un certain nombre de questions avec des réponses relativement encadrées. Sinon, c'est inexploitable. On peut rien en tirer. C'est la limite. C'est la limite, d'ailleurs, d'un débat comme celui-là. Ça ne peut donner que des pistes, comme le disait frère Manuel, qui sont déjà un petit peu fléchées. Mais... le simple fait, je crois, je suis un peu moins pessimiste que lui, le simple fait que si on veut, on puisse quand même se plonger dans un certain nombre de réalités, ça permet aussi de se rendre compte qu'on ne peut pas avoir simultanément des revendications tous azimuts. Le fait d'indiquer un certain nombre de champs dans lesquels la majorité, peut-être, j'en sais rien, pourrait se dégager en disant ben, c'est dans ce champ-là qu'il faut qu'on réduise les dépenses. C'est quand même assez intéressant. Et puis, ça pourrait permettre, et ce serait un paradoxe, si rien ne se dégage très, très, très clairement, que les choix sont voisins, ont des pourcentages à peu près homogènes, ça permettrait de poser la question autrement. Est-ce qu'avec la même chose, on ne peut pas faire mieux? Parce que c'est une tradition. Alors là, qui est bien française, chaque fois qu'il y a un problème, et Dieu sait que comme tout le monde, il y en a, on dit on veut plus de moyens. Or, ça n'est pas nécessairement plus de moyens qu'il faut, c'est les utiliser plus intelligemment.
Tanguy Marie Poulenc, peut-être pour finir sur ce grand débat.
Mais moi, je pense que je voudrais redire que derrière le débat, c'est l'arrière-plan du débat qui m'intéresse. On n'est pas dans un monde qui change, on est dans un changement de monde. il y a une accélération qui se passe au cœur même de l'économie, de la politique, des relations internationales aujourd'hui, avec des questions, je dirais, puissantes, que sont aussi les questions de la paix, et puis les questions des rapports de force géopolitiques et les questions écologiques. On change de monde, et ce changement de monde, je dirais, il y a une accélération qui se fait, et les gens ont du mal à se positionner. Donc il y a une stabilité, il y a comme un... Voilà, la Terre se fragile, se fragmente sous leurs pieds, et on a du mal à se projeter. On a du mal à se projeter. Et la France s'inscrit dans...
Et donc quoi? C'est ce qui manque à ce grand débat? De donner une perspective?
De donner une perspective, la perspective culturelle, c'est pas à l'État de la donner, hein. C'est pas à l'État de nous dire ce qu'on doit penser. Par contre, c'est à la société civile de se réapproprier la question de la culture, du sens ultime. J'y mettrai largement la question du sens religieux, pour sortir d'un individualisme mortifère et consommateur, et retrouver la joie sainte de la fraternité. L'enjeu, c'est retrouver ce qui caractérise aussi notre pays, un certain sens de la fraternité, mais une fraternité où on s'accueille, on s'ouvre les uns les autres, on est content d'être ensemble. C'est peut-être ça la vraie richesse qui sort de cette crise, la joie retrouvée pour une part d'être ensemble et de sortir nos inquiétudes, pas par des politiques de pouvoir d'achat qui seraient promises à la hausse, mais par un sens retrouvé ensemble. Voilà, ensemble. Il faut que le pays avance ensemble. Seule l'unité du pays permettra d'avancer ensemble. Les divisions n'ont jamais porté un pays et tiré un pays vers le haut.
Voilà, donc ce sera peut-être la conclusion de la prochaine lettre, en tout cas de la synthèse, ensemble, après confiance. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler de la crise de la psychiatrie publique surtout.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel donc l'émission actualité du mois. On revient sur les grandes actualités du moment ou du mois passé. Et autour du plateau, pour ceux qui nous prendront en cours de route, Daniel Cabanis, entre autres chroniqueuse géopolitique sur cette antenne, Tanguy Marie Pouliquen, prêtre et religieux, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse, et Emmanuel Perrier, prêtre et également religieux et professeur au Studium des Dominicains à Toulouse. On s'est dit donc qu'on allait parler de la psychiatrie. On en a parlé, mais pas tant que ça. Et pourtant, Dieu sait si la situation semble grave. Voilà, j'ai cru comprendre que dans l'Église, on avait l'habitude de dire que ceux qui avaient recours à des exorcistes et autres étaient appelés les pauvres des pauvres. Peut-être qu'on pourrait aussi dire la même chose pour la psychiatrie. Je vais commencer juste en citant Adeline Hazan. Elle est le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et voilà ce qu'elle disait suite à une visite réalisée en janvier 2018 des situations individuelles, des dysfonctionnements et des conditions de prise en charge qui permettent de considérer que les conditions de vie de certaines personnes hospitalisées constituent un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle ajoutait, les constats les plus graves intéressent les prises en charge aux urgences, les pratiques d'isolement et de contention et l'exercice des droits des patients. La psychiatrie publique, on a l'impression que la France le découvre, est en crise. Crise grave, et donc les soignants sont dehors, hein. On pourrait citer de nombreux lieux, Rennes, Alonne, Amiens, Bourges, Cadillac, etc. Ils vont même jusqu'à faire des grèves de la faim, certains considérant qu'en fait ils ne peuvent pas faire leur métier correctement. J'ai même lu cette belle phrase, c'était une révolte éthique, je crois. Emmanuel Perrier, qu'est-ce que ça vous inspire, cette crise de la psychiatrie, ou qu'est-ce que vous avez lu, que vous voulez nous partager?
Non, j'ai pas de lien particulier. Ce que j'entends d'un frère qui est aumônier dans l'hôpital ici, ce sont des conditions difficiles, mais je n'ai pas l'impression d'avoir entendu quelque chose de très différent, par exemple, de ce que j'entends du monde des prisons. Pardon, qui lui aussi vit quelque chose de tragique.
Ça ne veut pas dire que ce n'est pas tragique, parce qu'en l'occurrence, la situation des prisons en France est...
Et voilà.
Et pas exemplaire. C'est...
Non, mais justement, c'est-à-dire que...
On ne savait pas que le
hôpital psychiatrique
était des prisons.
Non, je dirais que c'est un secteur de plus dans lequel on voit des personnes qui n'arrivent plus à faire leur travail, une administration qui est un peu en crise, et quelque chose qui... Bien. Autre chose qui me vient, c'est le fait qu'il y a eu quand même un mouvement pour échapper aux asiles à partir des années 60, avec toute la critique des enceintes fermées de psychiatrie, liées à la psychiatrie, et il y a eu un développement énorme de la psychiatrie à domicile ou de l'accompagnement psychiatrique. Donc il faut, je pense, aussi replacer ça dans la question, c'est est-ce que cette crise, elle correspond au fait qu'on avait tout un système d'établissement, mais est-ce que la crise vient du fait qu'on pourrait les prendre plus par le biais des psychiatres en libéral ou de l'accompagnement psychiatrique, et que on réduit la part d'établissement proprement psychiatrique. Troisième remarque, c'est je suis aussi effaré du fait que je vois beaucoup de troubles psychiatriques qui apparaissent liés aux pertes des solidarités familiales, aux pertes de repères, à tout le drame des familles qui explosent, et que je trouve que notre société, non seulement il faudrait qu'elle accompagne les personnes qui ont des difficultés, enfin toutes ces maladies, mais il faudrait peut-être aussi qu'elles s'interrogent sur l'origine de leur multiplication. Hein, le rôle de la drogue, le rôle d'un certain nombre d'éléments déclencheurs ou en tout cas aggravants de ces phénomènes.
Je vais citer un ou deux chiffres qui peuvent aussi répondre à certaines de vos questions. En 20 ans, le nombre de lits dans les hôpitaux est passé de 130 000 à 50 000 lits, donc ça fait plus de 60%, mais les demandes à l'égard des hôpitaux sont passées de 1 million à 2 millions de personnes, donc là pour le coup ça fait plus 100%. Voilà, il y a de plus en plus de gens en fait, qui souffrent de pathologies ou qui, une fois dans leur vie, ont recours à la médecine psychiatrique. On dit que c'est un Français français sur 5 dans sa vie. Tanguy Marie Pouliquen.
Parce que juste, on sait notamment l'impact des drogues, hein, de la consommation de drogues, sur le développement d'un certain nombre de phénomènes comme les schizophrénies, etc. Enfin, là, c'est...
Tanguy Marie Pouliquen.
Alors, je confirme le chiffre, français sur 5 sont touchés par la psychiatrie.
Une fois dans sa vie, en tout cas.
Oui, qui coûte à l'État français 110 milliards en valeur réelle. Voilà, hein. Vous pouvez voir ces chiffres dans l'état d'urgence, psychiatrie, un livre qui a reçu le prix de la littérature politique Edgar Faure en 2018. Alors, moi, je soutiens tout à fait l'idée du frère et Emmanuel sur la question de la famille, hein, dans une société où l'individualisme est de plus en plus prégnant et que la famille est de plus en plus fragilisée. Hein. La cellule de base d'une société, c'est la famille. Et c'est la famille autour d'un couple stable et un papa et une maman, redisons-le très, très clairement. Et quand cette unité de base, cette cellule de base unie au cœur même d'une société est fragilité, les solidarités de base, etc. Moi, dans ma famille, j'ai un neveu qui est autiste. Un Français sur 100 serait autiste. Moi, c'est un chiffre qui m'a énormément bousculé. Comment j'ai vu mon frère, bon, qui a les épaules solides, qui est un grand chef d'entreprise, dire il n'y a pas de place pour mon gamin, très bien, moi je crée un centre pour autistes. Lui, il avait les épaules fortes, il a créé ce centre, et puis il a trouvé l'argent pour ça, etc. Il manque crûment de place pour les enfants, pour les problèmes psychiatriques, etc. Donc il y a
quasiment plus de pédopsychiatres.
Oui, il y a un vrai problème. Mais au-delà de la fonctionnalité mise à disposition des problèmes psychiatriques des personnes, c'est un problème avant tout d'arrière-garde, de fond, etc. Et l'antidote, c'est ce magnifique film documentaire que j'ai vu vendredi au cinéma Rex à Blagnac, hein, Le Sacrement de la Tendresse de Jean Vanier. Comment Jean Vanier, qui à travers la création des communautés de l'Arche que l'on a sur le terrain de notre communauté des Béatitudes à Blagnac, je dirais, crée un espace, la communauté, lieu de la fête et du pardon, qui est l'antidote d'une société qui revendique la reconnaissance sociale par « moi je sais, toi tu sais pas », et alors que l'enfant handicapé, le pauvre, a aussi une parole à nous donner, une richesse. Donc retrouvons aussi au-delà de la prise en charge fonctionnelle, matérielle, c'est une vraie question, hein. Aussi la richesse de ces personnes-là et quelles paroles elles ont à nous dire sur ce qui ne va pas dans notre société et comment nous aussi on peut, accueillir leur vie comme une richesse.
Ce qui est touchant dans cette crise, enfin moi ce que j'ai trouvé assez bouleversant, c'est que voilà, les soignants sont les premiers à dire aujourd'hui qu'ils se sentent prisonniers d'un système, enfin voilà, d'une réduction de moyens, mais aussi d'un système, on va dire, du tout biologique, voilà, et qu'ils veulent en fait du temps avec leurs patients, disant qu'on ne peut pas gérer 3, 4, 5 patients qui font parfois des crises en même temps, sans hélas, bah, parfois les attacher, etc., et que ça les rend malades, et ils en sont même à se demander si certains ne vont pas finir par se suicider dans les services. Voilà, ils veulent de l'humain à l'hôpital. Daniel Cabanis.
Oui, mais il se trouve que c'est un sujet qui me touche d'assez près, puisque j'ai un frère qui est un polyhandicapé psychique, donc un sujet que je connais bien, la difficulté de trouver qui il faut pour s'occuper comme il faut. Enfin, c'est quelque chose de compliqué. Je crois qu'une des difficultés, ce que a dit le frère est très très juste, l'éclatement des cellules familiales traditionnelles, qu'elles soient passées par le mariage ou non, je dirais ça n'a pas grande importance, d'un groupe, moi c'est pas essentiel à mes yeux, d'un groupe qui soit stable et qui soit solide. Certainement une énorme cause de fragilisation, parce qu'on n'a plus de repères, plus de points d'ancrage qui soient importants. Puis il y a aussi une chose, c'est que d'un côté, on voit se multiplier les cas où l'on considère que la personne a besoin de recourir à la psychiatrie. Et puis en même temps, le regard social collectif reste un regard extrêmement sévère à l'égard des gens qui ont eu recours à un psychiatre. Quand j'étais jeune, c'est vrai, il y a longtemps, mais qu'il y avait la conscription, c'était un truc classique de garçons. Bon, ça, à l'époque, ça ne pouvait concerner que des garçons qui ne voulaient absolument pas faire leur service militaire de feinter la folie furieuse, enfin d'avoir un comportement...
P4.
Voilà, tout à fait. Et moi, je me souviens, mon père était médecin, mais pas du tout psychiatre, avoir dit à des enfants d'amis, si tu fais ça, ça te regarde, mais n'oublie pas que ça te suivra toujours. Et le regard qu'on jettera sur toi, parce que tu as joué au fou, fait qu'on te prendra un jour ou l'autre pour un fou, et on dira, oui, déjà à 20 ans ou 18 ans, mon Dieu, la conscription, tu étais un malade. Je pense que mon père avait un peu tort en disant que c'était une sorte de tare qui vous suivait, mais il n'en reste pas moins que notre société n'est pas pleine de compréhension. Elle ne veut pas savoir...
Alors quand c'est un Français sur cinq, oui. On peut se dire que ça touche...
Ça touche toutes les familles. Absolument, à des titres divers, mais on a encore beaucoup de mal à le digérer. On sort son enfant handicapé en fauteuil roulant, malvoyant, malentendant ou même avec des troubles IMC importants. En revanche, aller au resto avec son papa d'élite, c'est pas évident. Nous, avec mes frères, on voulait y aller avec notre petit frère et on y allait. Et les parents étaient d'accord, mais c'était... On a eu comme des commentaires en coin qui étaient parfois un peu durs à digérer.
Voilà, est-ce que ça attire un dernier commentaire? Je vois qu'il reste une ou deux minutes. Je cherche depuis tout à l'heure parmi les déclarations qu'a fait la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Elle a fait une déclaration qui recouvre en fait ce que vous disiez autour du plateau, disant que voilà, c'est aussi le délitement des solidarités familiales et collectives qui fait que de plus en plus de personnes sont fragilisées dans leur vie et donc font des burn-out, des dépressions.
Nommons, soyons clairs, au-delà des grandes déclarations politiques comme ça, la cause de cette baisse de solidarité, si pendant 50 ans on porte atteinte progressivement à la fortification de l'unité familiale, ben on récolte quand même ce qu'on a semé.
Emmanuel Perrier, le mot de la fin.
Et aussi une anthropologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se soumet nous-mêmes, c'est nous qui sommes complices de notre propre manière de vivre, mais nous nous soumettons aujourd'hui à des... impulsions, à des stimulations, à des à une vie qui, pour laquelle l'homme n'est pas fait. L'homme n'est pas fait pour vivre en permanence dans un stress, dans une espèce de frénésie, de consommation, d'écoute, de télévision, de consommation d'images, etc. Ça n'est pas possible.
Et de drame, apparemment.
Et voilà. Et ça ne fait que... on sait très bien que du point de vue biologique, le corps humain est une machine très bien réglée et fragile dès que ça se dérègle. Pourquoi en serait-il différemment du psychisme? On ne peut pas soumettre un psychisme humain à des conditions trop lourdes, sinon on voit apparaître toutes les fragilités, toutes les limites, tous les déséquilibres qui sont intrinsèquement dans un psychisme. C'est trop complexe. Donc une vie plus... Je dirais, il y a derrière une question d'anthropologie, une question de quelle vie humaine est-ce que nous voulons mener et quelle est cette vie humaine qui peut nous ramener à plus d'équilibre psychique.
Eh ben, merci beaucoup d'être venu à nouveau au micro de Vivante Église ce matin pour cette émission Le Grand Débat. Rendez-vous est donné le mois prochain. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.